RFI, toute l'actualité, Nemo en Peace.
Les principaux titres de ce mardi 18 février 2025. L'armée israélienne s'est retirée des villages du sud du Liban mais reste sur 5 positions, affirme ce matin une source sécuritaire libanaise, quelques heures maintenant après le délai fixé pour le retrait de ses troupes en vertu d'un accord de cessez-le-feu passé avec le Hezbollah. Israël qui annonçait hier la création future d'une agence spéciale pour le départ volontaire des habitants de Gaza après l'engagement pris par le Premier ministre de respecter le plan du président américain de prendre le contrôle du territoire palestinien et déplacer ses habitants. Des responsables russes et américains réunis ce mardi à Riyad en Arabie Saoudite. Objectif, tenter de relancer une relation au plus bas alors qu'une éventuelle rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine se profile. L'Ukraine a redit ce lundi qu'elle ne reconnaîtrait aucun accord conclu sans elle et a regretté ne pas avoir été informée de ses pourparlers. Le pape François dans un état clinique complexe mais stable, c'est ce qu'a fait savoir hier le Vatican alors que le souverain pontife devra rester hospitalisé aussi longtemps que nécessaire selon cette même source. Âgé de 88 ans, le pape souffre d'une infection respiratoire. Et puis c'est le grand jour, ce mardi 18 février, vous connaîtrez le nom du lauréat ou de la lauréate du prix Découverte RFI 2025. Qui, pour succéder à la rappeuse congolaise Jessie B, rendez-vous dans une heure à 8h45, heure de Paris. La revue de presse africaine avec vous, Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Et à la une, la diplomatie paralysée face à la guerre dans l'est de la RDC.
Où s'arrêteront le M23 et le Rwanda? Question posée par le site d'information guinéen Le Djeli. La facilité avec laquelle les rebelles viennent de prendre le contrôle des deux principales régions, du Nord Kivu et du Sud Kivu, en l'espace d'un mois seulement, doit inquiéter les autorités congolaises. D'autant que sur le plan diplomatique, personne ne répond, s'exclame Le Djeli. Personne n'écoute vraiment les doléances du président Tshisekedi à l'ONU, à la communauté de l'Afrique de l'Est, à la communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi qu'à l'Union africaine. On n'ose même pas citer le Rwanda comme agresseur. Seul le Royaume-Uni et la France, après la chute de Bukavu le week-end dernier, ont eu le courage d'appeler nommément le pays de Kagame à se retirer des zones qu'il a contribué à conquérir, mais en vain. Dans ces conditions, conclut le site guinéen, il n'y a donc pas de véritable obstacle susceptible d'arrêter le M23 s'il décidait de conquérir Kinshasa.
La communauté internationale reste donc, Frédéric, les bras croisés. C'est ce que dénonce avec force dans une tribune publiée par Le Monde Afrique le chercheur américain Jason Stearns, fondateur du groupe d'études sur le Congo.
3 semaines se sont écoulées depuis la chute de Goma, sans autre réaction que des condamnations tièdes, s'insurge-t-il. Au sein de l'Union européenne, où les décisions de suspension de l'aide nécessaires cite un consensus. Quelques intérêts étroits ont bloqué l'action. Le Rwanda a déployé des troupes dans le nord du Mozambique où elles ont repoussé les militants islamistes, protégeant ainsi un projet pétrolier de 20 milliards de dollars qui appartient à Total Energy. Cela a rendu la France réticente à faire pression sur le Rwanda. Depuis le début de la crise en 2021, l'Élysée a joué un rôle clé en soutenant la hausse du financement à Kigali, dénonce encore Jason Stearns. Aux États-Unis, poursuit-il, les postes les plus élevés concernant l'Afrique n'ont pas encore été pourvus, ce qui a ralenti l'action. Parmi les pays africains, le manque de leadership associé à l'efficacité diplomatique de Kigali a empêché toute mention explicite de la présence du Rwanda en RDC dans les déclarations officielles des organismes régionaux. Résultat, soupire Jason Stearns, quel est le pays étranger le plus populaire en ce moment? Eh bien, la Russie, qui n'a pratiquement aucune présence politique ou économique en RDC. La crise du M23 est un signe supplémentaire des changements géopolitiques dans le monde. La Chine, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et la Turquie sont en plein essor en Afrique, tandis que les États-Unis, qui semblent désormais déterminés à démanteler la plus grande organisation humanitaire au monde, et l'Europe se replient sur eux-mêmes, en proie au nativisme et au populisme.
Autre tribune, cette fois publiée par le site burkinabé Wakatsera. Elle est signée Jean-Jules Lema Landou, journaliste congolais, réfugié en France.
Oui, pour lui, le dialogue reste la clé. Il se félicite de la démarche de paix engagée par les religieux congolais. Les églises catholiques et protestantes doivent en extraire le meilleur, affirme-t-il, en équilibre dans la part à accorder à toutes les parties. Pour nous, précipiter le départ de Félix Tshisekedi avant la fin de son deuxième mandat en 2028 n'aurait aucun apport positif, poursuit-il. Bien au contraire, l'essentiel, c'est de dépoussiérer urgemment les rouages gangrénés de la bonne gouvernance au travers d'une forme de gouvernement de transition et d'union nationale, d'une manière ou d'une autre, avec un Tshisekedi régnant sans gouverner. La formule est possible, assure encore Jean-Jules Lemalandou. Cela permettrait d'organiser les prochaines élections dans des conditions apaisées et de transparence. C'est tout ce dont le peuple congolais a besoin.
Enfin, à lire également ce matin l'éditorial du New Times à Kigali, quotidien proche du pouvoir rwandais, qui estime que Kinshasa doit négocier avec le M23.
Oui, l'Est de la RDC a besoin de solutions audacieuses et non conventionnelles, écrit le New Times. Le M23 pourrait bien être la pilule amère que Kinshasa doit avaler. Pour le bien de millions de personnes, il est temps d'envisager l'impensable. Kinshasa ne devrait pas considérer le M23 comme une menace, affirme encore le quotidien rwandais, mais comme une opportunité d'écraser les milices, de ramener les réfugiés chez eux, de construire un avenir meilleur. La question est, auront-ils le courage d'essayer ?
Frédéric Couteau, merci. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. La présence militaire française en Afrique continue de se réduire d'année en année. Ce jeudi, la France va procéder à la rétrocession de la base occupée par le 43e Bima, le bataillon d'infanterie de marine, aux autorités ivoiriennes. Un camp situé dans la commune de Port-Boué, qui va être renommé le camp Thomas d'Aquin Ouattara, du nom du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Et une cérémonie officielle sera organisée en présence des deux ministres respectifs de la Défense, côté ivoirien donc. Tene Biraïma Ouattara, il est notre invité ce matin sur RFI et répond aux questions de notre correspondante à Abidjan, Binta Diagne.
Tene Biraïma Ouattara, bonjour.
Bonjour Binta.
La rétrocession du 43e Bima est un symbole fort. Qu'attendez-vous aujourd'hui de la coopération militaire avec la France ?
C'est donc un sujet dont nous discutons avec la partie française depuis 2 ans, depuis 2023. Nous sommes convenus d'avoir un nouveau partenariat. Nous proposons de consolider la coopération de nos forces conventionnelles, de renforcer l'appui de la partie française dans le partenariat avec la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le volet renseignement et puis le volet aussi des forces spéciales et enfin de contribuer à la montée en puissance de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire.
Une centaine de militaires français devraient rester pour assurer des formations. Quels sont les besoins spécifiques de l'armée ivoirienne ?
Les besoins sont nombreux, je dirais. Voici comment est-ce qu'on pense organiser le 43e BIMAC. Nous allons créer un centre d'aguerrissement. Nous avons besoin, avant de projeter nos soldats dans les opérations des Nations Unies, donc de les former. Jusque-là, ces formations se faisaient dans des camps assez reculés. Nous pensons que le 43e BIMAC, donc, correspond parfaitement à des infrastructures qui correspondent à la formation. Nous avons déjà créé, en partenariat avec la France, une école de communication au niveau donc des armées, ce qui est important. Et nous avons l'intention aussi d'y installer un certain nombre de bataillons ivoiriens dans le camp.
Quelle est la contrepartie à cette coopération ?
La coopération militaire continue avec la France. Nous, il n'y a pas de rupture en réalité parce que une équipe de l'armée de l'air de la France va s'installer à Boaké, par exemple, où il y a des infrastructures appropriées pour la formation des pilotes ivoiriens. Donc, la coopération continue en réalité. La France a voulu réarticuler son dispositif en Afrique. On ne peut que donc aller dans ce sens, mais la coopération continue.
À Munich, vous avez eu un entretien avec le commandant d'Africom. Est-ce que l'administration de Donald Trump vous paraît disposée à reconduire le soutien des États-Unis en matière de formation et d'équipement des armées ivoiriennes ?
J'ai indiqué au responsable de Africom, le général Langlais, que nous avions quelques inquiétudes parce que nous avions un plan de formation avec les États-Unis qui a dû connaître un ralentissement à partir donc des instructions depuis Washington. Il m'a rassuré. Il m'a rassuré pour me dire que la Côte d'Ivoire constitue quand même un pays important et c'est une évaluation qui se fera très rapidement et la coopération devrait continuer normalement.
En décembre, 2 gendarmes ivoiriens qui étaient détenus à Ouaga depuis plusieurs mois ont pu être libérés grâce à la médiation du Togo. Le soldat et le VDP burkinabé sont aussi rentrés chez eux. Alors, passé cet épisode, est-ce que les discussions avec votre homologue burkinabé de la Défense ont pu reprendre ?
Le Burkina et la Côte d'Ivoire ont une histoire commune. Nous sommes tellement liés, puis nous avons des populations qui sont de part et d'autre, qui parlent la même langue. C'est un certain nombre de choses qui font que la Côte d'Ivoire ne peut pas se fâcher avec le Burkina, vice-versa. Donc, il peut y avoir des incompréhensions, mais très rapidement, ces incompréhensions sont levées et puis la vie continue. Je pense qu'il n'y a pas de problème a priori.
Vous parlez justement de la frontière. Est-ce que du coup, par exemple, les discussions sur la délimitation de la frontière qui est commune ont pu reprendre ?
Oui, effectivement. À Bobo-Dioulasso, au jour d'aujourd'hui, les discussions ont repris pour essayer d'arriver à une délimitation des frontières. On s'est fixé un calendrier qui devrait prendre fin à fin juin.
Est-ce que vous êtes volontaire pour essayer de relancer les discussions autour de la mise en place de patrouilles mixtes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ?
On l'a toujours souhaité. La partie burkinabé nous avait donné des assurances dans ce sens-là, mais pour le moment, ce n'est pas effectif. Mais c'est notre souhait, parce que ça permettrait vraiment de régler un problème. Ça permettrait donc à la Côte d'Ivoire de nettoyer le nord ivoirien, ça permettrait au Burkina de nettoyer le sud Burkina. Mais pour le moment, ce n'est pas effectif. La dernière opération que nous avons menée ensemble date de 2021. Depuis, donc, nous n'avons pas encore pu mener d'opération ensemble, mais j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver quand même.
Monsieur le ministre d'État, une question politique maintenant. Début janvier, à l'occasion des vœux au corps diplomatique, le président de la République a dit qu'il n'avait pas encore pris sa décision concernant le scrutin d'octobre prochain. Pensez-vous qu'il veut y aller ?
Posez la question au président de la République. Merci.
Merci à vous.
Entretien entre Téné et Biraïma Ouattara, ministre ivoirien de la Défense, et Binta Diagne, à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. 7h55 ici à Paris, l'heure, vous en avez l'habitude, de l'humeur de Maman. Et Maman, ce matin, vous sortez des frontières de votre cher Gondwana et vous nous dites qu'au sein de la diaspora, il y a les bons et les mauvais Gondwanais.
Oui, quand tu es un Gondwané au Gondwana, mon ami, tu connais le modus vivendi. Tu sais comment marcher, parler, réfléchir, nager, sans faire de vagues. Il n'y a pas meilleur que toi pour savoir comment voler sous les radars, comme un avion furtif, tout ça pour ne pas froisser président fondateur. Mais parfois, certains ont la chance de s'esquiver et se retrouver hors du Gondwana, devenant ainsi des grès Gondwanais résidant à l'étranger. La plupart de ces grès se contentent de se construire une nouvelle vie là-bas, oubliant Sergent s'en fout l'amour des autres et sa section rangers ses coups de chicotte, oubliant les élections surprises et les élections à demi-tour, effaçant de leur mémoire endolorie les hôpitaux sans médecins ni médicaments, les écoles sans enseignants ni classes, les journées et les nuits sans eau ni électricité, bref, une nouvelle vie quoi. Quand viennent les vacances, si tu peux, mon ami, tu peux prendre un billet pour revenir au pays, voir la famille, manger les bons plats, aller au village, puis repartir sans faire de vagues. Tu sais que tu n'es qu'un invité dans le pays du président fondateur. Et quand tu es un invité chez quelqu'un, ben tu enlèves tes chaussures. Quand on te le dit, tu mets ton téléphone sur vibreur pour ne pas réveiller les enfants qui dorment. Comme ça, là, tu sais que tu circuleras sans problème au Gondwana. Tu circuleras comme un ballon de foot dans une équipe de Pep Guardiola. Mais certains parmi les grés, ceux qu'on appelle les malgrés, c'est-à-dire les mauvais grés, les mauvais bougres, se piquent de vouloir continuer à enquiquiner notre leader bien-aimé depuis là-bas où ils sont.
Je ne comprends pas. S'ils veulent se battre, ils savent où me trouver, non ?
C'est bien là le problème. Quand du côté des bons grés, bien élevés et polis, ça circule comme de l'eau sans le robinet, sans problème, eh ben, avec les mauvais Gondwanais résidant à l'étranger, ça ne circule pas du tout. D'abord, parce qu'ils savent que lorsqu'ils prendront leur billet d'avion pour venir au pays, sergent s'en fout l'amour des autres, s'occupera personnellement de leur faciliter les formalités douane et police à l'aéroport. Ils passeront directement de l'avion à la prison de Gondwanamo. Et ensuite, mon ami, avant même de prendre ton billet d'avion pour revenir au Gondwana, il te faut un passeport. Et qui donne le passeport au Gondwana, d'après toi ? Ben c'est le gars que tu insultes là, président fondateur. C'est son pays. Il est libre d'accepter qui il veut. Tu lui as mal parlé, ben il refuse de renouveler ton passeport gondwanais. Tu peux plus voyager, mon ami. Tu es devenu un apatride. Ah, un autre pays t'a donné un passeport ? Ben on va te refuser le visa pour entrer au Gondwana. Tu vois, de gré ou de force, que tu sois un bon ou un mauvais gré, t'es obligé de reconnaître que le boss au Gondwana, mais c'est président fondateur. À demain.
À demain, Maman. Et merci. Dans quelques secondes, on entame la dernière heure de cette édition d'RFI Matin avec le journal de Simon Bourtembourg. Et puis, ça y est, vous connaîtrez dans 45 minutes le nom du gagnant ou de la gagnante du prix Découverte RFI 2025. Restez avec nous. Bientôt 8h ici à Paris.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
à Madagascar, l'homosexualité est autorisée pour les personnes de plus de 21 ans. Pourtant, elle est encore largement condamnée par la société. Dans ce contexte, des associations luttent pour faire respecter la loi et promouvoir un traitement égalitaire des personnes trans ou homosexuelles.
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI. Ce mardi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Parler des méfaits de la mafia dans les écoles pour éloigner les jeunes de la criminalité. C'est le pari en Italie d'un juge et d'une petite association. À partir d'exemples vécus, il libère la parole et ouvre la possibilité d'une autre vie.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU sur RFI.
Ce mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric De Oliveira.
Objectif 8e de finale, le Real Madrid de Kylian Mbappé retrouve Manchester City une semaine après sa victoire 3-2 en Angleterre. Pep Guardiola et les Sky Blues rêvent de prendre leur revanche. Le PSG tentera lui de confirmer